Mémoire d'un continent.
Ilikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'histoire du Congo RDC, mémoire, identité, symbole. C'est aujourd'hui, grâce aux recherches de plus en plus nombreuses des spécialistes, des historiens, mais aussi tous les chercheurs dans le domaine des sciences sociales, sociologues, linguistes, anthropologues, etc., que les sociétés, les États, les pays, comme on dit, ne sont pas des créations toutes faites, immobiles en quelque sorte à travers le temps, et frappé d'une sorte de saut de l'éternité. Malgré les discours politiques, justement, dans tous les pays du monde, sur la pérennité des pays, la pérennité des institutions, nous savons qu'en réalité, l'histoire est un processus permanent et que les sociétés changent en donnant l'impression d'être toujours les mêmes. L'autre chose que l'on voit aussi, c'est que les citoyens ne sont pas passifs par rapport à leur passé. Les gens, comme on dit, donc chacun de nos auditeurs, s'approprie le passé qui n'est pas un passé simple. C'est toujours un passé composé de plusieurs choses et réaménagé par les individus. L'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, se trouve en quelque sorte au centre de ces questionnements. Qu'est-ce que le passé? Comment le passé agit-il sur le présent? Est-ce que le présent, c'est vraiment une innovation ou pas? Parce que si l'on pense seulement au fait que ce pays a bat peut-être le record des changements de nom, s'étant appelé État indépendant du Congo d'abord, pendant le début de la colonisation, ensuite Congo belge, ensuite République démocratique du Congo, ensuite République du Zaïre, de nouveau République démocratique du Congo. Et il n'est pas impossible que demain, ils changent de nom encore pour en adopter un autre. Parallèlement à tout cela, on peut se demander ce qu'il y a dans la tête des citoyens, les hommes, les femmes, les jeunes de plus en plus nombreux, par rapport à ce passé qui pèse lourd, mais en même temps par rapport à un présent qui les sollicite tout le temps. Autour de ces questions de temps, de mémoire, d'identité et de la gestion de soi dans un ensemble collectif, un livre d'essais, de débats, parfois assez provocateur dans le meilleur sens du mot, vient de paraître sous un titre aussi qui surprendra peut-être quelques-uns, L'invention du Congo contemporain, tradition, mémoire, modernité. L'auteur est évidemment l'invité de notre émission Mémoire d'un continent. Bonjour professeur Ndaiwel Isidore.
Oui, bonjour, bonjour Elikia.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Kinshasa, où se trouve avoir été fondé le premier enseignement de l'histoire dans ce pays. Vous avez présidé aussi la SOHISA, la Société des historiens zaïrois, et vous avez fait beaucoup d'autres choses, publié des livres, et vous revenez là sur un certain nombre de questions qui sont des questions ouvertes dans lesquelles vous essayez parfois de provoquer un certain nombre de gens. Alors on va rester plutôt dans l'histoire contemporaine en faisant des sauts en arrière. Le Congo a été d'abord l'affaire d'un homme qui était en quelque sorte son roi, son président, tout ce qu'on veut, Léopold II. Ensuite, c'est devenu une colonie belge, une colonie classique. Et depuis les indépendances, on a l'impression que, une fois le Lumumba, premier ministre, éliminé, le Congo est une affaire de président. Donc il y a une succession de présidents, d'ailleurs pas si nombreux que ça. Je pense peut-être que le Congo bat un record dans le nombre relativement réduit de présidents. Et donc le président Kassavubu, qui est vite parti, le président Mobutu, qui est celui qui a battu le record de la durée, le président Kabila Laurent Désiré, le président Kabila Joseph. Alors qu'est-ce que c'est que ce phénomène présidentiel au Congo ?
Bien, je pense que c'est d'abord c'est un phénomène qui n'est pas unique en Afrique pour le moment. On parle beaucoup de présidents, on parle beaucoup de changements de présidents. Un peu toute la politique tourne sur le fait des présidents. Moi, je me suis attaché à réfléchir un peu sur les phénomènes de changement de président. Et je note que pour ce qui concerne le Congo, il y a eu quatre, en fait, transitions, si on peut reprendre ce terme qui est courant dans l'historiographie congolaise. La première transition ayant été celle, d'ailleurs, de la colonisation à Kasavubu. Et puis la deuxième, de Kasavubu à Mobutu, et puis de Mobutu à Laurent-Désiré Kabila, et ensuite de Laurent-Désiré Kabila à son fils. Alors nous constatons qu'il y a des éléments communs qui reviennent constamment. La première des choses, c'est que d'abord cela se passe chaque fois dans une sorte de confusion générale. On ne sait pas trop où l'on va, et puis finalement le changement intervient. Et je reliais un peu cet élément au fait que dans les royaumes anciens, au Congo, l'interrègne était considéré également comme étant des périodes anarchiques, c'est-à-dire périodes au cours desquelles les lois anciennes ayant été abolies, les lois nouvelles n'étant pas encore sur place, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Mais dès que le nouveau roi était là, l'ordre devait régner à nouveau, et d'ailleurs il y avait indemnisation de ceux qui avaient été lésés. Donc il y a un désordre assez généralisé chaque fois qu'il y a changement. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'il y a chaque fois également le discours de l'ingérence étrangère, l'intervention étrangère à ces périodes. Nous retrouvons ce genre d'éléments à peu près à chaque fois. En 1960, on parlera de l'intervention américaine, on est dans la guerre froide. Cela revient à nouveau lorsqu'il est question du passage de Mobutu à Laurent-Désiré Kabila. Nous sommes à la période où on dira, voilà, les Américains ne veulent plus de Mobutu, il faut absolument qu'il y ait un autre personnage. Nous sommes à nouveau un scénario similaire où nous constatons que Joseph Kabila est à la fin de son mandat. À nouveau, ce même discours revient. Donc il y a là des récurrences de cette nature. Alors, troisième élément important, c'est qu'il y a chaque fois également des violences au rendez-vous. Nous l'avons dès le point de départ, nous l'avons avec les mutineries de la force publique, etc., les rébellions qui en ont suivi. Nous avons, plus tard, quand Mobutu part, il y a les rébellions qui naissent et qui aboutissent à cette fameuse guerre mondiale dite africaine, première guerre mondiale africaine. Et puis là, nous avons à nouveau encore des violences. Il y a toute la problématique, et non seulement des violences à Beni, mais également et surtout les violences au Kasaï, où d'ailleurs on ne voit pas très bien, on ne sait pas très bien où ça va et qu'est-ce qu'il y a eu à la base. Donc voilà, il y a des éléments comme ça, mais il y a plein de détails qui démontrent que c'est des éléments récurrents. Donc cette étude, c'était pour permettre aussi aux contemporains, aux acteurs politiques, mais surtout à la population de se rendre compte de ces éléments pour pouvoir, bien sûr, à l'avenir, espérons-le, pouvoir prendre des dispositions pour qu'il n'en soit pas ainsi. Nous avons noté également qu'il n'y a jamais eu de remise-reprise. Chaque fois, le nouveau pouvoir démarre avec des éléments qu'il peut trouver sans qu'il y ait eu possibilité réellement ce que l'ancienne administration puisse faire une passation calme, digne, rigoureuse avec le nouveau pouvoir. Voilà un peu concernant cette thématique.
Par rapport à cela, on peut se demander aussi, il y a tout de même des élections, il y a les violences, mais il y a aussi des élections. L'indépendance commence avec des élections communales d'abord, législatives ensuite. Alors, ce processus électoral, est-ce qu'il a quelque chose de particulier qui distinguerait, par exemple, le Congo d'un pays comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud?
D'abord, il faut que je rappelle que nous sommes en 2017. Les premières élections au Congo ont eu lieu en 1957. Donc, on peut presque dire que nous sommes dans une date anniversaire qu'on aurait dû d'ailleurs célébrer, évoquer, discuter à ce sujet. Mais globalement, je peux dire, malgré l'antériorité tout de même de ce premier exercice 1957, la culture électorale n'a pas pu réellement se développer parce que nous en avons eu en 57, en 60, en 64. Et puis nous avons eu une longue période avec Mobutu où les élections ont été, ont toujours eu lieu, mais ont été toujours franchement instrumentalisées. Je dirais même ostensiblement instrumentalisées. Par exemple, cet exercice électoral à la main levée au stade pour choisir des députés, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc ce qui fait que, d'une certaine manière, le Congolais se méfie des élections, en considérant que les élections, c'est tout simplement une manière, je dirais, d'accréditer, d'une certaine façon, des choix déjà opérés par le prince. Donc, c'est cette méfiance qui fait que, effectivement, on ne peut pas dire on va aux élections en se disant nous sommes à une période électorale, on ne sait pas ce qui va en sortir, on va voir, non. C'est pratiquement des élections pour lesquelles on sait d'avance qui va gagner et qui va perdre. Donc, il y a là quelque chose qui devra se poursuivre, c'est-à-dire rattraper le retard des autres pays africains, puisque pendant les 57 ans, nous n'avons pas pu bénéficier réellement de cet apprentissage par des exercices réguliers. À mon avis, il faut s'attendre à ce que nous puissions au mieux avoir des élections de moins en moins contestables pour pouvoir arriver finalement, je pense, à quelque chose qui soit valable en réalité. Voilà.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance, tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines.
Je suis avec le professeur Isidore Ndaiwe-Lenziem et nous discutons du Congo, la République démocratique du Congo, à travers les questions de mémoire, d'identité et de symbole. À une époque, on a beaucoup parlé de tribalisme au Congo. On discute encore beaucoup de l'identité congolaise, qui est congolais, qui ne l'est pas. On parle encore des communautés. Le territoire national, d'ailleurs, est redécoupé en fonction de nouvelles unités administratives. Où en est la question des communautés, des peuples, on disait autrefois tribus ethniques congolaises. Est-ce que c'est encore une réalité pertinente dans la durée, disons, des 60 ans des indépendances?
Mais je crois à ce sujet, il faudrait qu'on fasse la part de choses. Pendant la période coloniale, on a exagéré, d'abord, le nombre de sociétés ethniques, des communautés au Congo. C'était pour une raison tout à fait compréhensible, voilà, le colonisateur voulant démontrer le rôle qu'il a eu de réunir des populations si diverses, se combattant, étant divisées entre eux, avec des guerres intestines tout le temps. Donc voilà un premier élément. Sur base maintenant des dernières études qui ont été faites, il n'y a pas au Congo, il n'y a pas plus de 200 communautés. Et ces communautés ne sont pas si diversifiées que ça. Au point même qu'on peut dire que pour le moment, il y a un recul d'une certaine manière de cette division, dans la mesure où il y a énormément de mariages intercommunautaires et l'urbanisme a joué son rôle. Pratiquement plus personne n'insiste sur ce genre de choses. Sauf alors lorsqu'il est question de manipulation politique où il y a le surgissement de cet élément qui n'est plus un élément tout à fait pertinent au niveau des divisions contemporaines, et il y a ce surgissement. D'ailleurs, même dans ce contexte, on peut dire qu'il y a des limites. Lorsque nous avons des élections en 2006 et qu'on arrive à conclure que le pays est divisé en deux, il y a l'Est et l'Ouest, on peut estimer que nous arrivons alors à une situation tout à fait acceptable. Dans le monde entier, dans différents pays, il y a des nuances, des divisions entre telle région et telle autre. Pour un espace aussi vaste, arriver à avoir deux groupes, l'Est et l'Ouest, c'est une démonstration importante qui montre qu'on a dépassé en fait la problématique des années 60 où il y avait les différentes ethnies. Donc, sur ce point-là, je pense que le discours officiel présente une réalité qui est beaucoup moins dramatique en réalité que cela n'apparaît sur le plan politique, où à ce niveau-là, il y a beaucoup de manipulation. Parce qu'évidemment, chaque homme politique voudrait faire prévaloir ce qu'il est, le programme qu'il présente, etc.
Un dernier mot sur une question que nous retrouverons certainement dans une autre émission. Vous consacrez des pages très intéressantes à la figure de la Vierge et vous avez écrit il y a plusieurs années un ouvrage intitulé « La société zaïroise à la lumière de son discours religieux ». On a vu récemment d'ailleurs que les églises, et en particulier l'église catholique, a joué un rôle important dans les négociations en vue de la période actuelle de la transition. La place du christianisme aujourd'hui sous ces différentes figures est quelque chose qui semble fondamental et peut-être l'un des traits d'union les plus importants de la société congolaise aujourd'hui.
Oui, absolument. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, dans le dépassement des clivages communautaires, il y a aussi les fraternités de prière, etc. Les frères en Christ ont un rapport plus étroit, bien sûr, que les relations purement communautaires. Mais ce que je veux évoquer aussi, c'est que dans l'histoire quelque peu longue du Congo, nous constatons que à chaque grande période de crise, il y a toujours le surgissement du phénomène religieux, que ce soit déjà aux années 20 avec Simon Kimbangu, après la Deuxième Guerre mondiale, avec Marine Koy chez les Ekonda, etc. En 1960, le phénomène religieux a réapparu avec le fait que tout le monde pensait que les ancêtres allaient ressusciter, qu'ils allaient venir chasser les Blancs. Et en cette période, je me suis attaché à ce phénomène parce que il y a eu les apparitions, entre guillemets, de la Vierge au Congo, certes, mais précédée des apparitions au Rwanda. Et donc, ça démontre que dans cette période de convulsion des Grands Lacs, il y a eu le surgissement de ce phénomène religieux avec un télescopage assez étonnant d'ailleurs, puisqu'il y a, opposition entre les deux pays, mais nous constatons, quand vous suivez cette histoire de près, que ce sont les voyants du Rwanda qui sont venus ici, qui ont apporté le message de la Vierge, et peu de temps après, il y a eu le surgissement ici également des voyants locaux dans des régions différentes, dans le Bandundu, à Mouilambongo, dans le territoire du Diofa, et puis à Kinshasa, où la Vierge apporte le même message en disant, voilà, il faut faire attention, il va y avoir des violences, etc. Mais faites attention, ceux qui sont en face de vous sont toujours vos frères, il faut bien les considérer. Donc il y a là un élément particulier. Je note également que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Monsengo, a dû autoriser officiellement le culte à la Vierge Mère du Désarmement, ce qui démontre que ce phénomène a quand même un impact très fort, non seulement sur le plan social, mais également, maintenant, il faut le dire, sur le plan religieux.
Merci beaucoup à vous, professeur Isidore Ndaiwel-Ndiem, pour ces éclaircissements qui montrent que, en fait, non seulement les sociétés africaines, le congolaise en particulier, sont en train de travailler leur histoire, leur mémoire, mais que la vision un peu unilatérale, trop politicienne, très à courte vue, n'est peut-être pas la vision la mieux appropriée pour étudier nos sociétés du continent africain et de la diaspora. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat